Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et le petit mot du soir nous revient à Florian qui nous dit que c'est la banane des gens heureux. Vous noterez donc et vous jugerez. Vous pouvez donner vos notes dès maintenant à cette petite vanne de Florian. On accueille Eric au 39-21. Bonsoir Eric.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Eric ?
Alors, je vous appelle de Normandie,
Dans le 73. Ah oui.
76.
Ah, le 76, d'accord, parce que je ne connaissais pas le 73. Non, le 76, donc Seine-Maritime, d'accord. Et quel âge avez-vous, Eric ?
47 ans.
D'accord. Qu'allez-nous nous raconter ?
Eh bien, je faisais le constat avec mon épouse ce week-end que nous allons bientôt fêter nos 10 ans de mariage.
Oui.
Et que moi, de mon côté, eh bien, il va y avoir dans quelques jours, 20 ans, eh bien, j'ai été ordonné prêtre.
D'accord.
Donc, voilà, changement d'état de vie cours de mon histoire.
En 2002,
voilà.
Donc, vous êtes
ordonné prêtre en 2002 et marié en 2012.
D'accord. Bon, on va bien évidemment parler de votre condition de prêtre avant et puis ensuite de l'amour hein, qui vous a fait quitter, alors sûrement pas la foi, mais cet état de prêtrise. Mais tout d'abord, pourquoi être devenu prêtre ? Comment tout ce choix s'est-il opéré à l'époque ?
Alors, c'est une longue histoire. Alors déjà, je suis issu d'une famille catholique. Alors, je suis originaire du Pays de Caux, hein, pour
oui.
les auditeurs qui connaissent. Hein, c'est le Pays de Caux, c'est je dirais une certaine partie de la Seine maritime. Hein, donc, je dirais assez large, je dirais autour de entre Rouen et Le Havre. Le Rouen, Le Havre, Fécamp, un petit village de moins de 1000 habitants à l'époque.
Oui.
Mes parents étant assez âgés, la foi du charbonnier, d'une famille nombreuse,
oui.
La question ne se posait pas. Dieu existe, et on ne se posait pas la question de savoir si c'était vrai ou pas vrai. Donc une famille croyante, pratiquante, voilà, comme il y en avait beaucoup lors de mon enfance.
Mmh. Est-ce que vous étiez une famille nombreuse ou pas?
Oui, tout à fait. Oui, tout à
D'accord.
fait. Nous avons été jusqu'à 9 enfants à la maison, hein, puisque mes parents recueillaient à la maison des enfants de la DAS. Donc voilà, nous étions tous élevés à la même enseigne.
D'accord. Est-il vrai que par tradition, ces familles de croyants dans les campagnes, est-ce que il fallait qu'un des enfants soit prêtre. Est-ce que chez vous, c'était une tradition dans le village ou est-ce que vous aviez entendu parler de cette tradition ?
Alors, loin dans le passé, parce que pas du tout en ce qui me concerne. Mais alors, effectivement, le summum, c'était un enfant prêtre, un enfant médecin et un enfant instituteur. Ça, c'était, je dirais, c'était le summum de la réussite. Alors, clairement, moi, quand à l'âge de... C'est après le service militaire hein, que j'ai commencé à en parler. Donc, à l'âge de 18-20 ans, quand j'ai commencé à dire à mes parents que j'envisageais de rentrer au séminaire pour faire les études afin de devenir prêtre, ça a été une grande fierté
oui.
pour mes parents parce que, justement, on rentrait dans cette logique que vous venez de dénoncer. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'était quand même un peu ancré. C'était quand même un peu ancré dans les mentalités. Ce qui vaudra quelques soucis, d'ailleurs, le jour où je vais annoncer...
Ah oui, mais nous n'y sommes pas encore, mais je suppose que
voilà.
Oui, ça a dû être... Oui.
Oui, voilà. Il y a eu quelques répercussions par la suite, hein, forcément.
Bon, alors donc vous êtes vous déclarez à vos parents que vous allez être prêtre. Vers quel âge vous m'avez dit vous commencez à y penser ?
Alors Finalement, très tôt, je dirais finalement assez tôt, parce que ma foi est née, donc, comme je vous disais, parce que nous étions ici d'une famille chrétienne, catholique, pratiquante, et j'ai eu une sœur handicapée, trisomique, handicap très lourd, qui, je pense, m'a fait naître, moi, à la foi, puisque... Dieu s'est fait homme, et qu'est-ce que ça voulait dire que Dieu s'est fait homme même lorsque le visage de l'homme peut être défiguré, malmené, en tout cas au vu de la société, complètement considéré comme étant inutile ou un poids aux yeux de la société. Donc je dirais que mon questionnement sur la foi, pour moi, est né fin des années collège, début des années lycée.
D'accord.
Donc, 15-16 ans.
15-16 ans.
Mais je vais garder pour moi ce questionnement, le laisser de côté.
Oui.
Puisque donc, j'ai eu le bac en 93, et après le bac, pour nous, eh bien, c'était le service militaire. Donc, je m'étais dit, voilà, je pars faire mon service militaire. Qui plus est, tant qu'à faire, on va faire un service militaire long. Donc, partir pour 2 ans,
oui.
Et voir, voilà, 2 années à l'écart, loin du contexte familial, comment est-ce que ces questions, ce cheminement va
continuer. Si cette foi va persister ou non.
Voilà. D'accord. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et le fait est que les questions non seulement se sont précisées, et que j'ai franchi le pas en allant un jour frapper à la porte du service des vocations de mon diocèse.
Oui.
Et j'ai continué à cheminer encore pendant quelques mois, une année, avant de franchir les portes du séminaire.
D'accord.
Où là encore, il y a quelques années quand même, avant d'être,
oui, parce
d'être
que,
ordonné prêtre.
Oui, parce que ça n'est pas évident, hein, de devenir prêtre. Qui veut ne peut pas obligatoirement. Parce que
non, tout à fait.
C'est quand même, ce sont des études supérieures. On peut parler d'études supérieures.
Ah oui, de toute façon, les études sont considérées comme étant des études supérieures. Donc, alors déjà, c'est forcément un diocèse qui vous présente au séminaire.
Oui.
D'accord, pour mon cas, c'était l'école supérieure de théologie catholique.
Oui.
Donc, il y a deux cycles. Un premier cycle de 2 ans. Que l'on appelle le cycle de discernement, mais également le cycle de philosophie. Alors, quel qu'ait été votre parcours, j'irais, scolaire auparavant, vous avez 2 années pour passer le DUG de philosophie. Et à la fin de ces 2 années, soit vous repartez en stage pour prendre encore quelques années de réflexion dans le monde, je dirais, non clérical, en dehors de l'Église, pour ceux qui seraient un peu trop jeunes, soit vous enchaînez directement par le deuxième cycle de 4 ans, qui, lui, pour le coup, vous mène vers la prêtrise, et là, vous préparez la maîtrise de théologie.
D'accord. Et alors...
Donc, en fait, c'est un bac, en fait, c'est 6 années d'études, mais c'est un bac plus 2, et après, on recommence un bac plus 4.
D'accord. Et je me suis toujours demandé, pour ceux qui n'avaient pas le niveau, quand vous avez une foi déclarée et vraiment cet appel
oui.
qui ne correspond pas obligatoirement avec un niveau intellectuel qui soit capable
oui,
de faire de la
oui,
philosophie,
oui,
vous voyez,
oui.
Doc de philosophie,
oui.
C'est quand même assez balèze, hein, assez performant.
Alors... Donc, il y a plusieurs cas de figure.
Vous fait sourire. Pourquoi ?
Oui, ça me fait sourire parce que ça me renvoie à mon propre cas.
Ben oui, mais moi, je me rappelle de la philosophie
cas,
en
mais...
terminale. Ça me passionnait.
Oui, ben
mais
pas du tout.
Pas du tout. Ah, c'est drôle.
Ah non, moi, en terminale, pas du tout. C'était ma bête noire. Et là, vous en prenez pour 8 à 10 heures par semaine. Donc, forcément, c'est... Oui. Je me rappelle du tout premier cours, d'ailleurs, c'était des pères, hein, c'était des prêtres, hein, qui nous faisaient cours, du tout premier cours de philosophie. Prenez une feuille et expliquez-moi votre parcours avec la philosophie jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ça tenait en une phrase. Et donc, on avait 4 heures hein, pour disserter dessus.
Oui.
Et moi, ça tenait en une phrase. C'était vague souvenir de présence en cours.
D'accord. Comme ça, c'était réglé.
C'était réglé. Le soir même, forcément, j'étais convoqué dans le bureau du père qui ne comprenait pas ce que je lui avais mis. Ben, je lui avais dit, écoutez, j'ai essayé d'être vrai avec vous. Je me souviens bien être allé en cours de philosophie, mais c'est à peu près tout, quoi. Et donc, le soir même, je sortais de son bureau avec une pile de livres à lire pour me remettre très vite à niveau. me précisant qu'il serait de bon ton de faire très vite, de pouvoir les ingurgiter. C'est pour ça que ça me faisait sourire. Mais sinon, avant d'entrer au séminaire, pour ceux qui seraient plus passés par un parcours CAP, BEP, plus technique, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le séminaire d'aîné.
Oui.
Donc, vous pouvez avoir en préparation à ces 6 années, en fait, une année moins 1 ou plus 1, si vous voulez, qui se fait dans un autre séminaire et qui vous met à peu près au niveau nécessaire pour pouvoir entrer au séminaire.
D'accord. Qui est une sorte de prépa, en fait.
C'est une prépa, oui, voilà. C'est une sorte de prépa à l'entrée au séminaire. Oui. C'est évident que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein, beaucoup de travail littéraire.
D'accord. Donc vous avez passé donc... combien d'années c'est le...
Pour arriver... Alors, c'est 6 années.
C'est quand même très contraignant.
Passionnante. Alors, c'est 6 années. La semaine, nous sommes au séminaire. Et le week-end, nous sommes en insertion dans des paroisses. Donc, oui. En fait, 3 fois 2 ans. Donc, j'ai fait 3 paroisses différentes dans mon diocèse. Une paroisse en plein milieu rural, une paroisse en milieu banlieue de la plus proche grande ville où j'habite, et la paroisse où j'habite aujourd'hui. Voilà.
D'accord.
Vous découvrez un peu la vie au quotidien,
oui,
de ce que vit le prêtre et des personnes qu'il rencontre et de ce qu'il fait son ministère au quotidien.
Quelles étaient les questions que vous posiez, vous, en tant que futur prêtre? Parce que, bien évidemment, beaucoup de personnes se demandent si la question du célibat est au cœur du choix ou du non-choix de poursuivre cet appel. Est-ce que... Qu'en était-il pour vous, en fait? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait... qui vous posait question, qui faisait dualité en vous?
Oui, forcément, la question du célibat est présente.
Est-ce qu'elle est centrale, en fait, c'est ça?
Oui, non, elle n'est pas centrale dans la mesure où, quand vous êtes au séminaire, quand j'étais au séminaire, nous étions une centaine.
Oui.
Nous étions une centaine, donc réparties sur les 6 années. Donc les questions que nous nous posions, je dirais qu'elles étaient très, très philosophiques, très théologiques, très...
Oui.
Oui, voilà, c'est ça, c'était des questions très...
Très humaines aussi.
Parce oui, très humaine, avec des points de vue très différents, forcément.
Oui, parce qu'il y a une vocation.
Parce que parmi nous, il y avait des personnes qui avaient travaillé avant, il y avait des personnes qui sortaient d'un cycle d'études autres et qui avaient enchaîné directement avec le séminaire, donc qui n'avaient pas été confrontés à la vie, avec la vie réelle. Je me rappelle qu'au séminaire, effectivement, nous avions une formation sur le célibat, mais la formation sur les célibats, finalement, elle intervient en second cycle, si j'ai bonne mémoire, c'était en deuxième année de second cycle, donc au bout de 4 ans de séminaire.
Oui.
Donc, en fait, vous êtes porté par la vie du séminaire, qui est rythmée par les cours, qui est rythmée par la vie de prière, qui est importante. Hein. C'est une vie de communauté de religieux avant tout. Hein. Il y a l'Eucharistie qui est centrale au milieu de la journée. Et vous avez 1, 2, 3, 4 offices en plus dans la journée. Donc en fait, je dirais qu'il est très facile de ne pas se poser la question du célibat dans la mesure où vous n'êtes pas seul. La question du célibat, elle intervient quand l'échéance approche. Et je dirais que vous êtes confronté vraiment, en fait, une fois où vous êtes face au célibat, une fois que vous avez été ordonné. Dernièrement, j'ai lu beaucoup d'articles, d'interviews sur de jeunes prêtres, comme j'étais à l'époque, hein, comme j'étais il y a 20 ans, qui disent non, pour moi, le célibat, c'est pas une question, c'est... voilà, on est forcément beaucoup plus disponible, on est plus, si on veut être un l'expression va être malheureuse, mais je ne veux blesser surtout personne, parce que je disais exactement la même chose il y a 20 ans, je ne le dirai plus aujourd'hui. Si je veux être un bon prêtre, je me dois d'être entièrement donné à Dieu et aux hommes. Les pasteurs sont entièrement donnés à Dieu et aux hommes, tout en ayant la possibilité d'être marié, d'avoir une vie de famille, tout comme dans l'Église orthodoxe. Et ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre.
L'assimiler, oui.
Mmh. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vivrai pas le ministère de la même façon et je n'annoncerai pas l'Évangile de la même façon. Je ne dirai pas Jésus-Christ de la même façon, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis marié, j'ai 3 enfants, je sais ce que c'est que de me lever la nuit quand les enfants sont malades, quand il y a des soucis, voilà, que tout un chacun est confronté.
Oui.
Donc effectivement, la question du célibat, si vous voulez, vous pouvez très bien faire l'ensemble du cursus de formation sans pour autant y être vraiment confronté et ne l'aborder que d'un point de vue intellectuel, en fait. Spirituel et intellectuel, en fait.
Mmh, mmh.
Et nous, je sais que ça nous était quand même proposé comme ça. Phrase, c'était vous allez être configuré au Christ pasteur et configuré au Christ pasteur. Bah, pour être configuré au Christ pasteur, c'était forcément vécu dans le célibat entièrement donné à l'Église. Et le entièrement donné à l'Église voulait dire le cœur non partagé avec un conjoint, une conjointe.
Une conjointe, d'accord.
Voilà, tout à fait. Oui.
Donc, vous prenez vos quartiers où, en tant que prêtre, dès que vous officiez
Dans le diocèse du Havre.
Oui.
Dans le diocèse du Havre, même si j'ai vécu 4 années dans le diocèse de Nantes, où j'ai vécu des choses extraordinaires, sinon mon diocèse d'origine, c'est le diocèse du Havre. Donc jeune vicaire sur les paroisses du centre-ville, grosse paroisse.
Oui.
Les plus grosses paroisses du centre-ville d'ailleurs, avec la cathédrale, aumônier des lycées, aumônier des scouts. Donc forcément en lien avec beaucoup 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 de gens.
Beaucoup de gens et très très mouvant, je suppose, avec beaucoup d'activités parce qu'il y avait des jeunes.
Beaucoup d'activités, voilà, tout à fait, oui. Bon, bah, puis une aumônerie à faire vivre. Et puis, comme je vous disais, ma foi étant née, moi, sur un questionnement sur ce qu'était la vie en tant que telle, la vie humaine, et puis la foi proposée à la vie, non pas d'une manière abstraite, mais très concrète, au cœur de l'homme.
Oui.
Voilà, comment aller rejoindre chaque jeune, chaque homme, chaque femme dans son quotidien. Très, très souvent invité chez les uns et les autres, aller partager un repas par-ci, un repas par-là, emmener les jeunes en camp C'est comme ça que sont nés d'ailleurs par chez nous les camps Théoski. C'était une manière de proposer à des jeunes qui n'étaient pas encore partis le fait d'aller skier tout en, eh ben, tout en allant réfléchir sur la foi.
Oui.
Et arriva un jour le camp Saint-Jacques de proposition de camp Saint-Jacques de Compostelle à vélo, traverser la France, les Pyrénées, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle.
D'accord. Pourquoi avez-vous dit Saint-Jacques de proposition?
La proposition?
Oui.
Bah parce que c'est une proposition que j'ai faite un jour et
Ah oui, d'accord. D'accord.
qui a trouvé acceptation auprès de plusieurs jeunes qui ont dit banco, nous ça nous intéresse. Il y avait le défi, il y avait le côté un peu défi physique,
Oui.
parce que bah, ça faisait quand même quelques kilomètres à faire hein, pour arriver jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port déjà, la traversée des Pyrénées. Alors la dernière étape n'a malheureusement pas pu se faire. La dernière étape, l'étape espagnole. Oui, c'est ça. Parce que c'est cette année que je vais découvrir et faire la rencontre, pardon, de mon épouse qui va venir comme accompagnatrice sur le pèlerinage Saint-Jacques de Compostelle.
Là, cela fait combien de temps à cette époque que vous êtes donc que vous officiez quand vous allez faire la rencontre de cette encadrante?
10 ans.
Ça
10 ans.
fait 10 ans, d'accord.
10 ans.
Pendant 10 ans, vous n'aviez jamais été troublé par aucune femme. Il n'y avait jamais eu le moindre frisson qui vous avait traversé. Parce que on sait que beaucoup de paroissiennes, enfin beaucoup en tout cas, il y a des paroissiennes qui vouent une admiration, vous voyez vraiment quelque chose qui est très subtil finalement, parce que souvent, dans beaucoup de paroisses, le prêtre, pour certaines de ces paroissiennes, représentait ben, finalement l'homme à qui elle pouvait se confier, l'homme qui, ben, celui qui n'existait pas à la maison ou qui ne parlait pas à la maison. Vous voyez, le prêtre avait ces dispositions-là que certaines femmes, auxquelles certaines femmes n'avaient pas accès parce que entourées, assez pauvres de par leur entourage. Donc, c'était la première fois que votre cœur chavirait comme ça, ou y avait-il eu des alertes?
Non, c'était la première fois. Des alertes, alors, plus des interrogations en tout cas sur ma capacité à pouvoir rester seul toute ma vie. Voyez-vous, c'est plus ça. Il n'y avait pas eu forcément d'interrogations sur tiens, il y a telle ou telle paroissienne que j'ai rencontrée qui m'interpelle ou voilà, qui a fait naître quoi que ce soit en moi. C'était pas ça, c'était plutôt comment est-ce que je vais finir, comment est-ce que je vais finir ma vie?
Oui, une question d'ordre un peu métaphysique, comme
Oui, voilà, tout à
n'importe qui
fait.
peut se passer. En tout cas, on va marquer une pause
Oui.
avant justement que vous nous racontiez comment cette encadrante, pardon, a fait chavirer votre cœur sur ce chemin de Compostelle. Vous restez avec moi, Eric, on se retrouve après l'info, d'accord? À
D'accord.
tout de suite.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
23h passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, vous le savez, composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme le font Patrick ce soir. Patrick qui est au boulot avec un bon nerf sciatique présent et douloureux, mais il est là, fidèle au poste, Patrick. Et puis, il y a Marie du Finistère, qui est elle aussi une habituée de la libre antenne, qui nous envoie son bonjour et qui, bien sûr, nous dit qu'elle a passé un très bon week-end en pèlerinage au sanctuaire de Pontemain. Prier, chanter avec sa chorale et manger tous ensemble, visiblement, a été un moment très agréable pour vous, Marie, et on vous salue. Éric, le cœur qui chavire, je suppose que avant d'être une tempête dans votre famille, c'est d'abord une tempête dans votre tête, dans votre esprit.
Oui, et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait.
Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, non, tout à fait. Alors, très étrangement, c'est la maman de mon épouse qui nous a présenté.
Oui.
Donc, sa maman était une de mes paroissiennes, qui a trois filles, et donc deux filles qui ont mon âge, et la troisième fille qui est donc mon épouse a 11 ans de moins que moi. Hein. Donc je ne la connaissais pas parce qu'à l'époque elle finissait son cycle d'études pour devenir sage-femme.
Oui.
Et donc ça faisait plusieurs fois qu'elle lui disait il faut absolument que tu viennes à la messe dimanche, que je te présente le jeune prêtre qui est arrivé, qui est absolument dynamique. Bon, puis elle se disait, mais qu'est-ce qu'il doit avoir à faire de connaître la troisième fille de Madame Intel, etc., etc. Donc, le fait est qu'un bon dimanche, nous avons fini par faire connaissance. Et ça, voilà, c'en était resté là. C'était un mois de décembre, si je n'ai pas de mémoire. Et nous nous étions revus au mois de juin seulement.
Oui, six mois plus tard.
Ouais, 6 mois plus tard, voilà, tout à fait. Et pour moi, c'était à quelques jours du départ de la première étape pour le fameux pélé-vélo vers Saint-Jacques de Compostelle. Mm-hmm. Et il me manquait quelqu'un pour accompagner, si vous voulez, pour faire la voiture suiveuse ou qui précède sur les différentes étapes et pour préparer à manger, pour faire plutôt le côté intendance. Donc je lui demande de manière complètement intéressée, bah, tiens, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Elle me dit, ah ben non, je peux pas parce que je vais commencer mon premier emploi à l'hôpital, je viens d'être diplômé, donc je ne peux pas. Je dis oui, mais tu commences tel jour, mais par exemple, là tu m'as dit que donc la première journée, en fait, elle pouvait le faire. Bon, très bien, c'est la première journée avec nous. Et bon, tout se passe bien, et moi j'enchaîne après avec les jeunes sur le restant de la semaine du pèlerinage en vélo. Mmh. Et puis nous nous sommes revus après coup, tout au long de l'année, de manière tout à fait amicale, pendant un an. Pendant un an, hein. Alors, on ne s'est pas vus toutes les semaines, mais on s'est vus régulièrement pendant un an pour préparer la deuxième étape du pèlerinage vélo, mais aussi commencer à se dire, tiens, on va aller voir tel film au cinéma, est-ce que ça t'intéresse? Oui, ben, pourquoi pas, etc. Enfin, voilà, il y avait des rencontres extra à proprement parler, oui, intéressées. De Compostelle qui commençait à se mettre en place. Et là, pour la deuxième année, pour le coup, par contre, elle a fait tout le pèlerinage avec nous, et c'est là où je pense que chacun de son côté, nous nous sommes aperçus que il y avait plus que de l'amitié qui était née tout au long de cette année qui venait de s'écouler. Mais nous nous sommes interdits, dans un premier temps, de nous en parler l'un à l'autre. C'est-à-dire que moi, je n'avais rien dit, et elle non plus, même si on sentait très bien l'un et l'autre, une attirance l'un envers l'autre. Et c'est quand même un peu ambigu, quoi, parce que vous ressentez des sentiments pour une personne, mais vous vous interdisez de lui dire, et c'était un peu dans les deux sens.
D'accord. Vous vous êtes un petit peu déplacé là, remettez-vous, vous captez bien.
Alors, je vais retourner voilà. Là où je
super.
Capte. C'est mieux là.
Ouais, ouais. Ça, c'est une habitude qu'on a quand on parle, quand on témoigne. Hop, 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 on se déplace. Je vous dis ça parce que quand il y a des caméras, ça se voit carrément. On fait bien 1m50 toutes
oui,
les 5
voilà,
minutes.
C'était ça.
Voilà.
et donc, oui, voilà. Donc, on s'était interdit de se dire un peu les sentiments amoureux naissants. Enfin, c'était même plus naissant, c'est qui était né et qui était vrai et qui nous animait l'un et l'autre, l'un envers l'autre. Jusqu'au jour où, alors je ne sais plus si c'est elle qui me les a avoués ou si c'est moi, mais enfin bon, toujours est-il qu'un jour, voilà, nous sommes avoués le fait que nous nous aimions et que voilà, il allait falloir prendre une décision qui de toute façon allait être difficile parce que de toute façon allait faire du mal. À des personnes.
Ça,
soit
c'était, tout de suite, vous le saviez, que ça allait faire des dégâts.
Oui, ouais. Moi je le savais tout de
ouais,
suite.
Ouais. Et des dégâts dans la
elle
famille.
Aussi. Et elle aussi.
Oui, et elle aussi. Dans la famille, oui. En première ligne, et ensuite.
Dans la famille. En ce qui me concerne, dans nos familles, et moi au niveau des paroissiens.
Oui, c'est
alors, au niveau des paroissiens et au niveau de mes frères prêtres. Également.
Oui, oui.
Voilà, il y a eu des réactions.
Alors, vous allez m'en parler, mais
oui.
Avant toute chose, la famille. Vous décidez
oui.
Quoi tous les deux avec votre future femme? Vous décidez de quoi que vous quittez les ordres avant d'officialiser tout ça? Comment est-ce que vous organisez, voyez? Les choses.
Non, ça s'est pas très bien passé, à vrai dire. Si ça avait pu se passer comme ça, ça aurait été, c'est vrai que ça aurait pu. Disons pendant 2-3 mois peut-être, on a essayé de se voir en ne disant rien à personne, hormis mon évêque qui était au courant. Qui m'avait dit bon bah écoute je vais m'en aller, c'était le moment, les évêques vont en conférence épiscopale tous les ans à Lourdes, donc ça tombait sur cette période là donc il m'avait dit là je vais être absent,
oui.
Et quand je vais revenir de Lourdes, je vais te demander de prendre 2 mois de réflexion dans une communauté religieuse de façon posée, donc séparée de mademoiselle,
oui.
et au terme de ces 2 mois nous ferons le point et on avisera en fonction de la décision et de ce que la prière aura fait naître et mûrir en toi. Mon évêque est parti et après l'affaire a été gérée par le vicaire, les vicaires généraux et épiscopaux qui était resté présent dans le diocèse, qui, pour le coup, m'ont mis au pied du mur, en fait. Donc, un jour, j'ai été convoqué, me disant, bah, écoute, l'évêque est à Lourdes, nous, on a décidé qu'à partir de demain... Ça ne va pas se passer comme ça. Tu ne célèbres plus, c'est terminé. Voilà.
Ce qui a été assez violent, quand même.
Oui, très violent. Oui, oui. Très violent. Donc, du coup, c'est sûr qu'on a été pris un peu au... forcément un peu au dépourvu, parce
ben
que
oui.
Le temps de réflexion que l'évêque nous accordait...
C'est quand même l'évêque, normalement le patron en plus, c'est lui qui commande.
Oui,
ils
venaient d'arriver dans le diocèse un peu, bon, voilà, c'était... Et voilà, quand je vous dis ça ne s'est pas passé forcément très bien, ça a été plutôt... Vous savez, l'Église, le Concile Vatican II démarre en disant l'Église experte en humanité. Eh bien, sur ce côté-là, il n'y a pas eu une expertise
pas vraiment,
non, humaine, en tout cas de gestion humaine de la crise. Mais bon, c'était, voilà, c'est, je dirais que c'est le passé. Aujourd'hui, les relations se sont assainies, donc je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas.
Non, puis nous ne sommes pas
retourner le couteau dans la plaie, vous voyez. Mais,
bon, non, donc, ça, c'est, donc ça s'est passé comme ça au niveau de la hiérarchie, de votre hiérarchie.
Ensuite. Au niveau de la hiérarchie. Alors, au niveau familial, donc, comme je vous disais, moi, je suis issu d'une famille chrétienne catholique du milieu rural avec la foi du charbonnier. Là, ça c'est aussi. Donc, mon père était décédé. Alors, d'ailleurs, celui de mon épouse aussi. Donc, eux n'ont pas eu à gérer ce côté-là.
Oui.
Ma mère l'a très mal pris.
Ah.
Très mal pris.
Aïe, aïe, aïe. Vous y attendiez ?
Oui, je m'y attendais. Bah, comme je m'attendais à peu près à toutes les réactions en chaîne qui ont pu suivre après. Hein. Je m'y attendais, mais ça a été jusqu'à ne pas venir au mariage civil.
Ah oui, elle n'est pas venue à votre mariage.
Non. Du côté de mon épouse, ça a été, bon, ça a été violent les premiers jours. Et puis, bah, finalement, ma belle-mère...
C'est madame votre belle-mère qui devait être un poil embêtée
oui,
quand
ça.
Même.
Bah, c'est un peu ce qu'on lui a fait remarquer en même temps.
Ah oui, parce qu'elle a un peu poussé. Il faut absolument que tu rencontres ce prêtre, il est fantastique. Bah, là, elle a dû y repenser à cette
tout
petite
à
poussette. Comme on dit.
Voilà, tout à fait. Et puis, voilà, sur le ton de l'humour, de temps en temps, on
oui,
aime bien
bah
le
oui,
lui
bien
rappeler.
Et
aujourd'hui, elle en rit, d'autant plus que, voilà, elle adore son gendre et ses trois petits-enfants qui sont nés.
Ah
depuis,
oui, parce que vous avez enchaîné, dites donc.
Ah bah oui.
Mais, et votre mère, est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est passé un petit peu, la pilule?
Oui.
Bon,
oui,
ça c'est super.
Assez... Oui. Non, c'est très bien. D'autant plus que bon, voilà, aujourd'hui ma mère va avoir 90 ans.
Génial. Et puis Dieu,
c'est chouette.
Dieu dans tout ça ne vous a pas quitté, Eric.
Non.
Parce
alors...
que ça a dû être très important pour votre mère de voir que voilà, la vie faisait que hein, votre destin et l'amour s'est retrouvé là et. L'amour irrésistible, mais Dieu est resté dans votre cœur et vous a accompagné tout le long de ces épreuves. Et elle en a été témoin.
Oui, tout à fait. En fait, bon, je dirais, avec moi, ça a été difficile avec moi. Par contre, ça a été très froid avec mon épouse pendant... bah, mon fils aîné va avoir 8 ans au mois de juillet, donc jusqu'à la naissance de mon fils, quoi. Donc, pour mon épouse, ça a été difficile pendant un petit moment quand même.
Ah oui.
Mais, voilà, Dieu était là et nous sommes restés croyants et pratiquants tous les deux.
Oui.
Donc, on n'a absolument pas rejeté la foi, quoi. Absolument pas rejeté la foi.
Ce qui a dû être très important.
Il y a une expression qui est toujours malheureuse, mais qui pour moi est fausse, c'est quand on me dit que j'ai quitté l'Église. Non, je n'ai pas quitté l'Église. J'ai cessé d'exercer mon ministère de prêtre.
Exactement.
Ce qui est complètement différent.
Vous êtes resté dans l'Église.
Je suis resté dans l'Église, tout à fait. Je suis resté dans l'Église. Ma foi en Jésus-Christ n'a absolument pas été ébranlée. Parce que je pense que ma foi était ancrée profondément, humainement et spirituellement. Après, ma vision ecclésiale de l'Église, d'ailleurs, la façon dont elle est gérée par les hommes et les femmes qui la constituent, bon, effectivement, aujourd'hui, je regarde peut-être un petit peu différemment les institutions. Mais ça, c'est une autre... Voilà, c'est une autre question, ça. Mais je suis resté dans l'Église.
Comment se sont comportés vos frères prêtres, justement ? Est-ce que certains ont compris ? Est-ce que d'autres vous ont rejeté ? Je suppose qu'il y a les deux.
Alors, déjà, pour commencer, la première sanction qui tombe, c'est que j'ai été ministre des sacrements en tant que prêtre.
Oui.
Et aujourd'hui, je n'ai plus le droit aux sacrements. Je ne peux plus communier, je n'ai pas le droit au sacrement de réconciliation.
Rien du tout.
Non, rien. Non, non.
Vous êtes banni là de ce côté-là.
Bah, disons que j'aurais pu demander le retour à l'état laïque.
Oui.
Chose que je ne voulais pas, parce que pour moi, ça aurait été renier mes années de ministère en tant que tel.
Oui,
et
oui.
Renier mes années de ministère, c'était renier les hommes et les femmes que j'avais accompagnés tout au long de ces années. Or, ce n'était absolument pas ça, mon choix. Donc, la première sanction, c'était, donc aujourd'hui, tu ne communies plus, enfin voilà, plus de sacrements. Réaction des prêtres, elles ont été d'ordre complètement différente. Je dirais que les plus anciens ont été les plus compréhensifs.
Oui.
J'ai reçu de très belles lettres de soutien des plus anciens, dont une phrase d'un prêtre qui aujourd'hui va avoir 95 ans, qui donc avait 10 ans de moins, 85 ans, 84, 85 ans à l'époque, et m'a écrit, j'ai gardé cette lettre, « Vois-tu, j'ai eu une vie très belle et heureuse, mais aujourd'hui, donc à l'âge où j'arrive, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir d'enfant. » C'est un prêtre que j'admirais déjà, et quand vous recevez une lettre comme ça, moi je m'étais dit chapeau, parce que arriver à écrire ce genre de choses à quelqu'un qui est dans la tourmente parce qu'il a pris la décision d'arrêter le ministère, voilà, lui me faisait part du fait que même s'il avait eu un ministère heureux, une vie belle et heureuse grâce à son ministère, et qu'il avait une blessure gardée au fond de lui, lui avait su me l'écrire. Ça avait été quelque chose d'important. Clairement, après, j'ai deux prêtres qui ne m'ont jamais quitté. Deux prêtres qui ne m'ont jamais quitté, oui et non, c'est vrai, c'est pas vrai. La deuxième sanction qui est tombée, c'est pendant un an, il nous a été demandé de ne pas mettre les pieds dans les églises du diocèse, aucune, pour qu'on ne soit pas vu. Donc nous allions à la messe, comme on dit par chez nous,
redéplacez-vous vers le.
Pourtant, j'ai pas bougé là.
Ah.
Là, j'ai pas bougé.
Ah, bah là, c'est mieux. Voilà.
Bon. Donc, pendant un an, oui, la deuxième sanction pendant un an, c'était interdiction de mettre les pieds dans les églises du diocèse.
Interdiction.
Oui.
Ça rigole pas, hein, donc.
Non. Mais ça, c'était comme ça. Je vous dis, ça n'a pas été géré de façon très humaine. Donc pendant un an, nous sommes allés, nous avons fait quelques kilomètres de plus pour aller prier, pour aller à l'église, tout simplement. Et au bout d'un an, j'ai été bête et disciplinée. J'ai dit à mon épouse, voilà, ça fait un an, on va aller dans une des églises du diocèse. Donc j'ai choisi délibérément l'église et le prêtre vers lequel je voulais me diriger. Je savais qu'avec lui, ce serait ça passait ou ça cassait. Hein. C'est quelqu'un qui est très qui est très cash et qui est très humain surtout et qui ne fait jamais le geste de paix au cours de l'Eucharistie. On était resté dans le fond de l'église, vraiment dans le fond, pour ne déranger personne, pour ne pas être vu. Bon, le fait est que lui nous avait vus, et à un moment de la célébration, je l'entends dire justement cet appel à partager la paix du Christ, et je le vois traverser l'église, s'occuper de personne dans l'église, et venir directement jusqu'à nous, dans notre banc, et à notre niveau. Et nous partager la paix du Christ et nous dire « Vous êtes vraiment les bienvenus sur ma paroisse. » Alors, je vais prendre ces termes parce que c'est un peu grossier, mais c'était ces termes. Et moi, ça m'a vraiment remis sur les rails. S'il y a une seule personne qui vous emmerde dans ma paroisse ou dans le diocèse, vous me le dites et c'est moi qui irai les voir.
D'accord.
Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire.
Bah oui, c'est extraordinaire. Bah au moins, oui, d'en avoir au moins un, c'est pas mal. hein.
Voilà, là, tout à fait.
Qui se débrouille comme ça.
Bon, après, il y a eu un autre prêtre qui, avec qui j'avais fait des pèlerinages en Terre Sainte, qui m'a fait découvrir la Terre Sainte, qui a toujours pris des nouvelles, qui a toujours été présent à prendre un peu des nouvelles, mais d'une telle amitié, c'était vraiment celui dont je viens de vous parler. Après, bah, les autres, les jeunes prêtres, réaction très violente.
Très violente, oui.
Tout simplement, bah, après, je le comprends. Je le comprenais à l'époque, je le comprends aujourd'hui. Enfin, à l'époque, je le comprenais, mais je ne l'acceptais pas. C'est aussi une remise en question pour eux sur le pourquoi est-ce que lui quitte le ministère là où bah, nous on reste en fait. C'était une très grosse remise en question pour chaque prêtre.
Oui,
donc forcément, ça a été difficile pour chacun.
Oui, oui. Mais parce que vous choisissiez une autre vie de toute façon.
Voilà, tout à fait.
Donc c'est pour ça que la question du célibat est tellement au cœur. Et bon, mais à ne pas remettre en question, hein, c'est quelque
c'est
chose
fait,
qui est
comment
là.
Est-ce que j'avais pu oser remettre en question cet état de fait, en fait.
Eh oui, mais c'est la vie qui l'avait remis, qui vous avait. Oui, c'est la vie qui vous avait projeté dans une nouvelle dimension, je pense. Et quelque part, voilà, ça vous est tombé dessus. Je pense que vous n'avez pas choisi.
Ah non, on n'est pas allé au-devant non plus.
Ben non,
non, non, tout à
non,
fait. Mais non,
non,
tout à fait.
Donc, c'est ça.
Après, il y a toujours un élément que l'on oublie quand un prêtre quitte le ministère pour se marier, pour partir avec une femme. Hein. Que moi, c'est, bon, je me suis, alors, nous ne nous sommes pas posé la question. Hein. J'ai quitté le ministère. 9 mois après, nous sommes mariés parce que bon, voilà, on était sûr de notre amour et on s'est dit bon, il faut couper court à tout ce qui est en train de se mettre en place, tous les on-dit ou les non-dit justement qui prenaient place. Mais pour la femme, c'est très difficile également. C'est énormément difficile parce que c'est celle qui a fait que le prêtre a quitté le ministère.
Oui, c'est un peu le diable.
Oui, tout à fait.
Oui.
Moi, je me rappelle m'être fâché fortement justement parce que elle avait été elle aussi convoquée à l'évêché pour aller.
Ah oui, carrément.
Oui. Donc là, j'avais dit non, là, il est hors de question, tu n'y vas pas. Et puis, moi, j'y étais allé. Hein,
oui. Bon, en tout cas, on voit que ça a été très dur en ce qui concerne l'Église. Mais vous, pour finir, dans cette nouvelle vie, parce que
vous deviez
changer de boulot.
Il a fallu rebondir, oui, tout à fait.
Et oui, parce que là, ça change de secteur. Donc, qu'avez-vous choisi et est-ce que ça a été facile pour vous?
Non, parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans ressources également.
Ben oui.
Du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans ressources. Donc moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance, qu'un ami me propose de travailler dans son entreprise, sachant que j'avais aucune compétence. Il le savait. Hein, j'avais aucune compétence pour travailler avec lui. Hein, c'était le monde du négoce du fer et de l'acier. Donc forcément, vous pensez bien que c'était pas du tout mon domaine. Mais voilà, moi, ça m'a permis pendant quelques mois d'atterrir dans la vie civile, et puis de faire un peu le point sur ce que je savais faire, ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire. Bon,
on va marquer une petite pause si vous le voulez bien, et puis et vous allez m'expliquer tout ça, d'accord?
D'accord.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit » suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
23h29 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Eric, donc cet ami va vous proposer du travail ?
Voilà, c'est ça. Comme je vous disais, dans un milieu qui n'était absolument pas du tout le mien, donc le négoce de l'acier, mais au moins ça m'a permis de pouvoir m'installer, voilà, de pouvoir m'installer, prendre un appartement avec mon épouse, de prendre voilà, prendre nos premiers pas dans la vie active, hein, à tous les deux. Et puis assez vite, j'ai réfléchi sur voilà, qu'est-ce que le ministère m'avait appris, qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce que j'avais aimé faire et comment est-ce que je pouvais retrouver ça dans la vie civile. Le fait est que j'avais accompagné beaucoup de personnes, alors dans des situations de joie, de baptême, de mariage, mais aussi de peine, les inhumations.
Oui.
J'avais célébré beaucoup, beaucoup d'inhumations. J'avais toujours eu à cœur de me rendre disponible pour pouvoir être présent dans ces moments-là. Parce que pour moi, c'était important aussi d'être voilà, d'être présent quand dans la vie, bah, tout semble s'écrouler parce qu'on vient de perdre un être cher, et de pouvoir venir témoigner de l'espérance qui était la mienne, qui est toujours la mienne d'ailleurs en la résurrection, hein, l'espérance en Jésus-Christ. Donc je me suis tourné vers le monde des pompes funèbres.
D'accord.
Donc j'ai écrit à toutes les sociétés de pompes funèbres de la région qui me connaissaient, forcément, puisque à peu près toutes étaient venues célébrer dans mes églises. Toutes avaient entendu parler du fait que j'avais quitté le ministère, que j'avais arrêté l'exercice du ministère plutôt. Et en fait, après, j'ai répondu à la première société qui m'avait réécrit et qui m'avait proposé de venir travailler pour eux.
Puis en
Donc, assez
plus,
vite.
c'était bien, en fait. Je n'avais pas du tout pensé à ce secteur-là, mais ça devait être parfait pour vous, vu le rapport à la religion, le rapport à la mort, le rapport à cette célébration-là, hein. Euh,
Mais oui, tout à
c'était,
fait.
c'était super d'avoir cette voie-là à prendre.
Oui, voilà. En fait, c'est vrai que je n'y avais pas pensé tout de suite parce que, bah, pris dans la tourmente, bon, voilà, je m'étais dirigé vers cet ami qui m'avait fait cette proposition. Mais pour moi, c'était, en fait, et encore aujourd'hui, c'est une suite logique de ce que j'ai vécu pendant mon ministère.
Oui. D'ailleurs, tenez, vous parlez d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, même si vous semblez être un père et un mari heureux, est-ce que vous vivez un manque par rapport à l'Église?
Alors, est-ce que je ressens un manque dans l'église ou est-ce que moi je
Non, non. Est-ce que
est-ce
vous
que moi je le
ressentez,
ressens, moi? Oui.
oui, est-ce que vous
Je suis
ressentez le
franc.
manque de
Oui.
De célébrer,
Alors,
d'officier, d'avoir
pour vous.
ce. Vous savez ce que vous apportiez, parce que vous
Oui.
n'êtes pas que le prêtre du dimanche. Un prêtre,
Non,
on oublie qu'un
oui, tout à fait.
prêtre, c'est toute la semaine qu'il
Ah ben
répond
c'est bien sûr.
aux peines, aux problématiques que les paroissiens peuvent, et il y en a de nombreux, hein, que les paroissiennes et les paroissiens viennent. Souvent, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais des paroissiennes, mais
Ah,
les
mais vous avez
paroissiens
entièrement raison, bien sûr.
viennent parler au prêtre parce qu'il est comme on évoque souvent dans cette émission, mais par tradition de la Libre Antenne, plus les psys, mais les prêtres ont ce rôle aussi de tierce personne qui ne juge pas, qui va apporter la sagesse, qui va donner des conseils. Ça ne vous manque pas?
Si, bien sûr. Alors comment vous dire ça? Donc alors je vais répondre à votre question, mais donc ça fait 10 ans, hein, 10 ans aujourd'hui que j'exerce dans le monde des pompes funèbres. J'ai d'abord travaillé dans deux sociétés pour 5 ans, enfin deux fois 5 ans dans deux sociétés différentes, et je ressentais un manque dans la proposition. Donc j'ai pris le pari d'ouvrir quelque chose pour pouvoir pallier à ce manque.
Oui.
Aujourd'hui, si demain l'Église me disait Eric, on manque de prêtres, on rappelle tout, on propose à tous les hommes, à tous les prêtres qui ont quitté le ministère pour se marier, de réintégrer le ministère pour venir nous aider, moi je dis oui sans hésitation.
Mais ne serait-ce sans pas hésitation. D'ailleurs, et ça je le dis pour les oreilles de vicaires qui nous écoutent, d'évêques, parce que je sais que certains de ces hommes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon travail me disent que souvent ils m'écoutent. Est-ce que cela ne serait pas là une décision qui collerait à notre temps et qui, je dirais, apporterait un autre vent dans cette Église, un autre courant de pensée? Moi, je trouve que ça serait... Parce que l'Église souffre aujourd'hui. En plus, elle souffre de la baisse de prêtres, hein, chaque année. En tout cas, on ordonne de moins en moins de prêtres. Donc, ça serait en tout cas une... Je pense que ça ne serait pas une décision qui choquerait la majorité des catholiques. Ça en choquerait certains, bien évidemment. Hein, mais bon, voilà. À bon entendeur,
oui.
Comme on dit.
Voilà, c'est ça.
Vous n'avez pas le droit d'être diacre aujourd'hui ?
Ah non.
Allez, vous êtes banni, quoi. Vous êtes.
Je ne suis pas banni. Je fais toujours partie de l'Église,
oui,
mais
oui.
Mais voilà. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure. Quoi,
mm-hmm. Ouais, d'accord.
Ouais.
Ah oui, c'est très rigoureux. Hein. C'est. Je ne savais pas. Je pensais que. Au bout d'un moment, peut-être, ça pouvait se détendre. Mais bon.
Bon, après, c'est pour ça que, comme je vous le disais, je savais toutes les répercussions qui allaient en découler. Mais d'un autre côté, oui, moi, vous savez, parfois, ça m'arrive encore de me réveiller la nuit en sursaut parce que je revis telle ou telle situation que j'ai pu vivre dans mon ministère ou pendant mes études ou des situations conflictuelles ou c'est quelque chose qui m'a profondément marqué.
Mais oui, c'est normal. C'est un engagement profond.
Oui, c'est un engagement profond, tout à fait.
Oui, oui.
On prête pas serment, mais on promet obéissance, on promet le célibat, c'est un engagement qui est très, très lourd.
C'est un engagement total, je trouve, pratiquement pour un jeune homme. En plus, c'est un engagement pratiquement à 200%.
Pour Dieu, tout à fait.
Pour Dieu,
oui.
Bon, mais dans le cadre de vos fonctions aujourd'hui, vous devez quand même être quelqu'un d'important à ce moment pénible de l'épreuve, du deuil, et de la célébration, des enterrements. Je pense que vous devez quand même apporter aujourd'hui à celles et ceux qui souffrent à ce moment-là quelque chose de différent, en tout cas. Parce que vous avez quelque chose en plus qui vous est resté de cette époque.
Moi, c'est la première question que je pose aux familles en deuil qui viennent, c'est après les avoir, ça peut paraître très étrange, hein, mais après les avoir invitées à s'asseoir, c'est parce que je sais qui est décédé quand elles arrivent, je le sais forcément, elles m'ont appelé, c'est notre père, c'est mon mari, donc je connais la situation. Quand je les ai en face de moi, c'est ma première question, c'est comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire là tout de suite ? C'est-à-dire que je cherche tout de suite à entrer dans cette, je dirais, dans cette relation, dans cette communion de paroles que j'avais pendant mon ministère, parce que c'est d'abord les vivants que je veux rencontrer. Avant même d'entamer toute autre démarche que ce soit dans l'organisation des obsèques.
Oui.
Pour moi, le plus important, ce sont ceux qui doivent continuer de vivre. et que j'ai en face de moi pour le, pour le coup. Et de faire de, aujourd'hui de faire de mon agence justement ce lieu de parole que j'avais autrefois. Là, ça m'est déjà arrivé que des familles reviennent après, tout simplement parce qu'elles avaient envie de parler. Et moi, je me dis, mais tant mieux, parce que c'est, là, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie de vivre. Et si les familles trouvent ici un lieu de parole, que ce soit un lieu de foi ou non, parce que forcément, j'ai des familles qui me demandent d'organiser des cérémonies d'inhumation, mais civiles, donc, que je fais également. J'essaye d'aller les rejoindre dans leur espérance. Moi, dans leur espérance, forcément, j'imagine, et je rencontre Dieu. Mais elles vont avoir des mots beaucoup plus simples. On te reverra là où tu es parti, là où tu t'en es allé, etc., etc. Je vais les rejoindre dans leur expression.
Dans l'espérance.
Ouais, sauf que le terme espérance est déjà connoté un peu, si vous voulez, est tellement déjà connoté chrétien, en fait, c'est l'espérance chrétienne. Donc,
oui.
Je pars vraiment. Mais de fait, vous avez raison, hein, c'est dans leur espérance, c'est dans, dans leur espérance ou dans leur espoir de pouvoir se revoir, de pouvoir comme quoi la mort n'est pas le point final bas du livre de la vie, quoi.
Oui. La mort
Et pour moi, aujourd'hui, pour moi, c'est ça pour moi aujourd'hui le principal.
Merci beaucoup, Eric, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, qui aura, je pense et je le vois sur les SMS que nous rencontrons, que nous lisons, aura eh bien fait gamberger pas mal les uns et les autres, hein, sur la vie des prêtres, sur le célibat, sur l'amour d'un seul coup qui vient frapper à la porte, à votre porte, mais qui a frappé à la porte de bien d'autres prêtres.
Bien sûr.
On n'oublie pas, parce que j'ai un SMS, de penser bien évidemment aux femmes et aux hommes qui sont divorcés et croyants et qui n'ont pas le droit, eux non plus, de communier. Ni de se remarier à l'église. Voilà des points de friction, on va dire, frottement, je ne sais pas si ça se dit, mais de friction sans doute, avec l'église qui pourrait peut-être lâcher un peu de lest, de mon point de vue, mais bon, je sais que ces points-là sont évoqués régulièrement, mais que ça n'avance pas vraiment dans le bon sens. Merci en tout cas pour votre témoignage, Eric, et puis embrassez bien vos trois enfants et votre femme pour nous, et mille merci pour ces mots ce soir sur Europe 1.
Merci à vous.
Bonne soirée, Eric, au revoir.
Merci, au revoir.